Bonsoir à toutes et à tous. Sur le monde aujourd'hui, VO Afrique, édition du mardi 11 mars 2025. En direct de Washington, Rosine Mounezelo. Pour commencer, les titres. Les représentants américains et ukrainiens qui se sont rencontrés mardi à Jeddah, en Arabie Saoudite, ont déclaré avoir pris des mesures importantes en vue de rétablir une paix durable en Ukraine. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté mardi sous un mandat de la Cour pénale internationale pour sa guerre meurtrière contre la drogue. En Somalie, une attaque revendiquée par les Shebab a fait au moins 9 morts mardi matin. Le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, a annoncé mardi avoir déployé des forces spéciales pour sécuriser Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Et dans notre partie magazine, au Sénégal, un groupe de jeunes femmes a créé une entreprise agroalimentaire pour surmonter les défis traditionnels auxquels les femmes rurales sont confrontées.
Le projet AgriJeune touche directement 80 000 jeunes et crée plus de 8 000 emplois décents. Parmi ceux-ci, 50% sont destinés aux jeunes femmes des zones rurales.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les représentants américains et ukrainiens qui se sont rencontrés mardi à Jeddah en Arabie Saoudite ont déclaré avoir pris des mesures importantes en vue de rétablir une paix durable en Ukraine. Les précisions de John Lydon.
Une déclaration commune publiée à l'issue des pourparlers indique que l'Ukraine s'est déclarée prête à accepter la proposition des États-Unis d'instaurer un cessez-le-feu immédiat et provisoire de 30 jours qui peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et qui est soumis à l'acceptation et à la mise en œuvre simultanée par la Fédération de Russie. Les États-Unis feront savoir à la Russie que la réciprocité russe est la clé de la paix. La déclaration ajoute que les États-Unis lèveraient immédiatement la pause sur l'échange des renseignements et reprendraient l'assistance à la sécurité de l'Ukraine. Le communiqué conjoint indique par ailleurs que les deux parties sont convenues de conclure dès que possible un accord global pour le développement des ressources minérales essentielles de l'Ukraine afin de développer l'économie ukrainienne et de garantir la prospérité et la sécurité à long terme de l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz ont dirigé la délégation américaine à Jeddah dans le cadre des efforts déployés par le président Donald Trump pour obtenir une fin rapide de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine était pour sa part représentée par son chef d'état-major Andriy Yermak, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha, le ministre de la Défense Rustem Umerov et le commandant militaire Pavlov Palissa.
Ici aux États-Unis, la Chambre américaine des représentants doit se prononcer mardi sur un texte budgétaire provisoire pour l'année 2025 qui permettrait à l'administration Trump d'éviter une paralysie de l'État fédéral, le fameux « shutdown » avant la date limite de vendredi soir. Le vote est attendu en fin d'après-midi à Washington et une issue favorable ouvrirait la voie à l'adoption du texte au Sénat dans les jours suivants. Le président Donald Trump a appelé au cours du week-end les élus républicains à voter en faveur du texte présenté au Congrès. L'ex-président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté à l'aéroport de Manille aujourd'hui en vertu d'un mandat d'arrêt de la CPI, Cour pénale internationale, qui le soupçonne de crimes contre l'humanité pour sa guerre meurtrière contre les stupéfiants. Jacques Aristide.
Sara Duterte, fille de l'ancien chef de l'État philippin, affirme que son père est emmené de force à La Haye ce mardi soir. Ce n'est pas de la justice, c'est de l'oppression et de la persécution, écrit Madame Duterte, la vice-présidente des Philippines, ajoutant que son père n'a pu faire valoir ses droits devant les autorités judiciaires locales. Rodrigo Duterte, à la tête du pays entre 2016 et 2022, revenait d'un bref voyage à Hong Kong quand il a été arrêté à l'aéroport de Manille. Les organisations de défense des droits humains estiment que des dizaines de milliers d'hommes, pour la plupart pauvres, ont été tués par des policiers et des groupes d'autodéfense lors des opérations antidrogues sous la présidence de Rodrigo Duterte. La CPI a ouvert une enquête sur cette campagne, susceptible, selon elle, de constituer un crime contre l'humanité. Dimanche, à Hong Kong, l'ex-dirigeant de 79 ans avait condamné l'enquête tout en admettant qu'il accepterait s'il devait être arrêté. La CPI, basée à La Haye aux Pays-Bas, déclare maintenir sa juridiction en ce qui concerne les meurtres perpétrés avant le retrait des Philippines de cette cour en 2019, ainsi que pour les meurtres commis à l'époque où Rodrigo Duterte était maire avant qu'il ne devienne président.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a accusé lundi le Canada d'abuser des droits de douane après que la province canadienne de l'Ontario a imposé une surtaxe sur les exportations d'électricité vers trois États américains, le Michigan, le Minnesota et l'État de New York. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a affirmé lundi que sa province continuerait à se battre tant que la menace de tarifs douaniers ne serait pas écartée pour de bon.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une attaque revendiquée par les Shebab a fait 9 morts ce matin dans un hôtel du centre de la Somalie où se tenait une réunion sur la lutte contre ce groupe islamiste radical, ont indiqué des sources sécuritaires et un chef traditionnel. L'attaque menée par un kamikaze a fait plusieurs victimes. Plus de détails avec Nani Talani.
Un terroriste kamikaze a précipité un monospace chargé d'explosifs sur l'entrée principale de l'hôtel avant que des hommes armés ne parviennent à entrer. Ils ont commencé à tirer sur les gens à l'intérieur, a indiqué Ahmed Osman, un cadre sécuritaire de la ville de Beledweyne, dans la région de Hiran, où l'attaque s'est produite. Selon plusieurs sources gouvernementales, l'hôtel visé accueillait une rencontre entre des responsables sécuritaires et des chefs traditionnels, dont le but était de mobiliser des milices devant prêter main forte aux forces gouvernementales dans leur lutte contre le groupe djihadiste des Shebab. Ce dernier a revendiqué la responsabilité de l'attaque dans un communiqué. Parmi les personnes tuées figurent deux chefs traditionnels et un membre des forces de sécurité. Un civil est également mort près de l'entrée de l'hôtel, a déclaré Abdirahman Hassan, un chef traditionnel. Alors que des chefs traditionnels et des militaires étaient escortés hors de l'hôtel par des forces de sécurité supplémentaires, un tuk-tuk chargé d'explosifs a explosé. À ce moment-là, ont raconté des témoins sans préciser s'il y avait d'autres victimes.
L'Ouganda a déployé des forces spéciales à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, en pleine montée des tensions entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar, ravivant les craintes d'un retour à la guerre civile. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, a annoncé aujourd'hui avoir déployé des forces spéciales pour sécuriser Djouba, la capitale du Soudan du Sud, et soutenir le président Salva Kiir alors que le pays connaît d'inquiétantes tensions. Les partisans du président Salva Kiir ont accusé les forces de M. Machar d'avoir fomenté des troubles avec l'armée blanche, un groupe armé aux contours flous réunissant des jeunes d'ethnie noire comme le vice-président. Le chef militaire ougandais a affirmé que toute action contre Kiir serait considérée comme une déclaration de guerre contre l'Ouganda. L'arrestation de ministres et d'officiers proches de Machar ainsi que des affrontements dans le nord du pays menace l'accord de paix de 2018. Le Soudan du Sud est entré dans une régression alarmante qui pourrait anéantir des années de progrès vers la paix, a estimé samedi Yasmine Souka, présidente de la Commission sur les droits de l'homme des Nations Unies au Soudan du Sud. L'Ouganda, qui avait envoyé des troupes au Soudan du Sud en 2013 pour soutenir le gouvernement du président Salva Kiir, avant de s'en retirer officiellement à la fin 2015, a régulièrement été accusé d'ingérence dans le plus jeune pays du monde.
Le procès en appel de la journaliste burundaise Sandra Muhoza a été de nouveau reporté s'inédit mardi, faute de carburant pour l'amener de la prison au tribunal. Selon plusieurs sources, ses proches soupçonnant de leur côté une manœuvre destinée à l'affaiblir. Sandra Muhoza, condamnée mi-décembre à 1 an et 9 mois de prison, notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire, est détenue à la prison centrale de Mpimba, dans la périphérie de Bujumbura, capitale économique du pays. Le procès en appel initialement prévu le 5 mars avait déjà été reporté au 11 mars. Les députés sénégalais ont approuvé mardi un projet de loi sur l'assistance aux personnes détenues, notamment des migrants, et autorisant le transfert mutuel de condamnés entre le Maroc et le Sénégal, a-t-on appris de sources parlementaires. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le ministère américain de l'Agriculture prévoit une légère reprise de la production de cacao en Côte d'Ivoire pour la campagne 2024-2025 estimée à 1,8 million de tonnes, soit une hausse de plus de 2% par rapport à 2023-2024. Toutefois, des défis subsistent avec la propagation de la pourriture brune, une maladie menaçant les rendements, tandis que les vents de l'Harmattan et le manque de précipitations entre décembre 2024 et février 2025 inquiètent les producteurs. Les autorités maliennes ont suspendu le salaire de 144 enseignants à Ménaka pour abandon de poste, invoquant leur absence malgré une convocation au 3 mars. Ces enseignants justifient leur éloignement par l'insécurité et la distance avec Bamako de 1200 km. La décision signée par le gouverneur Lanzeni prend effet dès le 1er avril 2025. Le Nigeria, leader africain des crypto-monnaies, tente de réguler le secteur après des années d'absence de cadre clair. Classé deuxième mondial en adoption des cryptos en 2023 et 2024, le Nigeria cherche à établir des règles formelles. En août, la Commission des valeurs mobilières du Nigeria a confirmé ses efforts et accordé un accord de principe à deux plateformes digitales pour débuter leurs opérations.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
La CAF tient sa 14e Assemblée Générale Extraordinaire ce mercredi au Caire, en Égypte.
Oui, pas d'enjeu pour le poste de président de l'instance dirigeante du Ballon rond africain. Le président sortant, Patrice Motsepe, est seul candidat à sa propre succession. Notre consultant Amine Birouk fait le bilan de son premier mandat.
Son bilan a été mitigé. Ce qui est positif, c'est par exemple l'augmentation des prize money de certaines compétitions, notamment de la Champions League et de la Coupe de la CAF. Le fait que l'Afrique ait obtenu son meilleur résultat en Coupe du Monde, ça peut être comptabilisé dans le bilan moral de Patrice Motsepe. On parle de l'exploit du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022. On peut aussi parler du fait que l'Afrique va obtenir l'organisation de 5 Coupes du Monde consécutives U17 féminines, de la fameuse Coupe du Monde 2030. Au niveau de l'administration, il y a un léger mieux. On peut pas nier ce fait. Combien de promesses de campagne ont été tenues par Patrice Motsepe? Que dire du plan Marshall pour les infrastructures? La moitié des pays africains ne jouent pas les matchs des éliminatoires de la CAN ou de la Coupe du Monde devant leur public. Aujourd'hui, il y a une méthode de communication, de gouvernance qu'il faut revoir. Et puis, est-ce que la CAF n'est pas toujours à la merci de la FIFA? Elle est la confédération la plus faible, le maillon faible au niveau des confédérations. Et aujourd'hui, il y va de la crédibilité de l'institution, qu'il ait un président fort, un président qui sache prendre des décisions importantes, un président qui délègue un peu moins son secrétaire général qui semble faire la pluie et le beau temps et qui était sous le coup d'une investigation non seulement de la part de la justice suisse mais également de la part d'une commission d'enquête transparente de la part de la CAF, la fameuse African Football League qui a eu une édition qui a ressemblé à un coup d'épée dans l'eau et qui n'a toujours pas de deadline concernant une deuxième édition. Et puis pour terminer, que dire de cette CAN qui est devenue aujourd'hui un objet instable, qui ne se déroule pas aux dates précises?
Amine Birouk, consultant sportif.
En Europe, les matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions se jouent ce soir.
En fil, le PSG rêve de bousculer Liverpool de l'Égyptien Mohamed Salah, qu'il avait battu 1-0 à Paris. Le championnat d'Allemagne est su de contre-temps à Bayern ou le Bayern Leverkusen, avec un net avantage par voie large vainqueur à l'aller 3-0. Sur la route de la finale à Munich le 31 mai, le FC Barcelone, fort de sa victoire à l'aller 1-0, cueille le Benfica.
Basketball NBA, Denver répond à Oklahoma City.
Au lendemain d'un premier choc remporté par Oklahoma City, les Denver Nuggets, champions en 2023, ont dompté le leader de la conférence Ouest sur son parquet 140-127. Malgré cette défaite, Oklahoma City reste largement en tête à l'Ouest. Et Denver a repris la deuxième place aux Los Angeles Lakers, battu à Brooklyn 111-108. Le champion Boston s'est fait peur, mais a fini par s'imposer contre le mal classé Utah Jazz, 114-108.
Merci Yakuba.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. 25 formations d'opposition ont signé leur adhésion à une charte pour former la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Parmi elles, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Tidiane Thiam, le mouvement des générations capables de l'ex-première dame Simone Gbagbo, le Front populaire ivoirien de Pascal Affingassen, ou encore le COGEP de Charles Blé Goudé. Cette coalition demande des réformes électorales avant la présidentielle d'octobre prochain. Pour en parler, Yacouba Ouedraogo a joint à Abidjan le consultant Fernand Dédé.
L'opposition demande la révision de la liste électorale en 2025 parce que la loi électorale en Côte d'Ivoire prescrit que chaque année, il faut une révision de la liste électorale. Et donc en 2024, il y a eu une révision de la liste électorale. Là, actuellement, le traitement de cette liste est en cours. La commission électorale a défini son agenda. À partir du 7 mars, la liste provisoire sera affichée, ouvrant ainsi le contentieux. Et donc, malgré cela, l'opposition exige que la commission s'en tienne à la loi qui veut que chaque année, il y ait une révision de la liste électorale. La commission électorale en est consciente, mais elle dit, dans l'état actuel des choses, compte tenu des contraintes, elle ne peut pas faire de révision électorale. Peut-être elle pourra le faire après la présidentielle. Le deuxième nœud, c'est la commission elle-même qui est en cause. Elle est mise en cause par les partis d'opposition. Ils estiment que les membres de cette commission, le président notamment, prend des positions qui semblent être des positions partisanes et par conséquent éloignent de la neutralité qui aurait dû être la sienne. Tout ce débat est suivi évidemment par le parti au pouvoir qui lui estime que la commission fait son travail et qu'il faut se préparer pour aller aux élections en octobre 2025.
L'un des grands absents de cette coalition, c'est le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Que vaut cette coalition en l'absence du PPACI face au RHDP?
Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle a en son sein quand même le grand parti du PDCI-RDA. Elle a des partis qui sont tous des satellites des croissances du PPACI. Évidemment, on se pose beaucoup de questions par rapport au PPACI. Le président Laurent Gbagbo a été le premier à lancer un appel l'année dernière à Benoît pour demander à tous les partis qui souhaitent se coaliser pour obtenir le départ du pouvoir actuel de se mettre ensemble. On n'était pas étonné, mais pas surpris. On n'était pas étonné que le PPACI, en ce moment-là, ne soit pas dans cette coalition qui se met en place.
Alors justement, parlant toujours du PPACI, on sait que son leader, Laurent Gbagbo, condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, est donc pas éligible, jusqu'ici en tout cas. Peut-être qu'il décide de mener la lutte seul au lieu de se joindre peut-être à la coalition.
Mais la vérité aujourd'hui, c'est qu'à 8 mois des élections, ni Laurent Gbagbo, ni Charles Blé Goudé, ni Soro Diom ne sont pour l'instant inscrits sur la liste électorale. C'est un gros problème. Aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition réclament leur réinscription sur la liste électorale. Le président du PDCI, coordonnateur de Cap Côte d'Ivoire, disait hier il faut des élections inclusives, ouvertes à tous ceux qui ont la volonté de se présenter à la présidence de la République.
Fernand Dédé, consultant politique, vous pourrez suivre l'intégralité de cette interview sur notre site web voafrique.com. Au Sénégal, un groupe de jeunes femmes a créé une entreprise agroalimentaire prospère grâce en partie à leur présence sur les réseaux sociaux. Elles ont pu développer leur entreprise tout en contribuant à la réduction de la pauvreté et à la création de nouveaux emplois dans les zones rurales. Nani Talani nous en dit davantage.
YouTube n'est pas là où l'on s'attendrait à trouver une jeune agricultrice sénégalaise comme Onta. Mais elle et ses quatre amis gagnent maintenant leur vie en cultivant des légumes dans leur village natal de Ngoundiane, tout en développant leur activité en ligne via les médias sociaux. Onta, agricultrice et youtubeuse.
Ancienne youtubeuse, Jeune TV, était l'idée pour faire la propagande de notre activité et faire la commercialisation. Tout le monde sait que l'Afrique a assez de soleil, de terre et d'eau abondante.
Au Sénégal, un tiers des femmes sont au chômage avec des taux plus élevés chez les jeunes femmes. Pour remédier à cette situation, le Fonds des Nations Unies pour le développement agricole, FIDA, a financé un projet visant à offrir aux jeunes ruraux une formation agricole. Loïse Waruguru Maïna, experte technique du FIDA.
Les jeunes femmes rurales du Sénégal sont confrontées à de multiples défis. Elles n'ont pas accès aux ressources productives comme la terre et les finances. Elles ont des taux d'analphabétisme nettement plus élevés dans certaines zones rurales. Elles ne sont pas représentées dans les institutions rurales et n'ont pas de formation en gestion d'entreprise.
C'est en 2022 que les femmes ont rejoint le projet AgriJeune, financé par le FIDA, la BAD et le gouvernement sénégalais. Ce projet vise à fournir une formation et des prêts aux jeunes ruraux du Sénégal afin qu'ils puissent créer leur propre entreprise agricole. Mais leur participation en tant que femmes a suscité des réactions négatives au sein de leur communauté. Anta, agricultrice et youtubeuse.
Avant même AgriJeune, les gens riaient de nous et moquaient de nous quand on faisait la formation.
On est loin de leur vie il y a 3 ans, lorsque les filles ont dû abandonner l'école prématurément et que la seule perspective d'emploi était un travail occasionnel en tant que femme de ménage dans la capitale Dakar. Loïse Waruguru Maïna, experte technique du FIDA.
Le projet AgriJeune touche directement 80 000 jeunes et crée plus de 8 000 emplois décents. Parmi ceux-ci, 50% sont destinés aux jeunes femmes des zones rurales. Et nous constatons d'excellents résultats à ce jour, avec une augmentation de l'esprit d'entreprise chez ces jeunes femmes et des revenus accrus qui leur permettent de répondre à leurs besoins quotidiens et de réinvestir et de développer leurs entreprises.
Les caméras ne sont peut-être qu'une activité secondaire, mais ces jeunes femmes se concentrent sur le développement de leur entreprise, tant sur le terrain qu'en ligne.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les Nigérianes s'imposent dans les transports alors que le pays traverse actuellement l'une des pires crises économiques depuis des décennies. Elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer en tant que conductrices de bus et de VTC. Alexandrine Holognon nous fait découvrir dans son reportage le profil de l'une de ces femmes, Amaka Okoli, qui fait son petit bout de chemin dans un secteur dominé par les hommes. Et comme vous allez l'entendre, elle ne se laisse pas intimider par les embouteillages de Lagos, la mégapole nigériane.
Amaka Okoli commence généralement sa journée à 5h30 du matin, l'heure de pointe pour les travailleurs de Lagos, la mégapole nigériane aux 20 millions d'habitants. La mère de famille de 38 ans a été contrainte de changer de profession lorsqu'elle a perdu son emploi dans une banque. Désormais, elle est conductrice de bus, appelée communément Koropé ou Danfo.
Pour être une conductrice de Danfo, surtout pour une femme, il faut être très forte. Parce que quelqu'un peut arriver de n'importe où et couper ta file, percuter ta voiture, et tu ne peux pas rester là et le regarder faire. Tu dois te défendre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un métier calme. Même si tu es de nature calme, dès que tu commences à faire ce travail, tu seras obligé de parler. Tu seras obligé de te battre.
Le Nigeria traverse actuellement l'une de ses pires crises économiques depuis des décennies. Le coût de la vie a considérablement augmenté dans le pays depuis que le président Bola Tinubu, élu en 2023, a mis fin aux subventions sur les carburants et au contrôle de devises. Selon plusieurs experts et professionnels du secteur des transports, la conjoncture économique actuelle pousse de plus en plus de femmes à se lancer en tant que conductrices de bus et de VTC.
Petit à petit, je constate que des femmes se joignent à nous tous les jours. Si tu sais conduire, elles trouvent simplement un bus et commencent à conduire. D'après les apparences, de plus en plus de femmes s'y mettent. De plus en plus de femmes viennent me voir et me demandent si je peux leur apprendre à conduire, car elles aimeraient apprendre. Ce n'est pas qu'elles apprécient réellement la conduite, mais c'est parce que c'est un moyen de subsistance maintenant pour mettre de quoi manger sur la table.
Victoria Oyeyemi, qui dirige une association d'entraide pour les conductrices de bus et de VTC, estime qu'il est important d'encourager les femmes à devenir chauffeurs de transport en commun ou privé, tout en sensibilisant aussi aux difficultés et risques inhérents à cette profession. Les excès de vitesse ont causé environ 56% des accidents de la route entre janvier et juin 2024, selon l'Agence nationale pour la sécurité routière. Mais les revenus modestes générés par cette activité ne satisfont pas à Maka Okoli. 60% des revenus quotidiens de cette mère de trois enfants sont consacrés à couvrir les taxes journalières, les bakchiches aux agents de la circulation et l'achat de carburant.
Au Nigeria, quand tu rentres à la maison, peu importe ton travail, il y a encore des choses qui t'attendent. Tu auras encore à faire la cuisine, tu auras ça à faire. Les corvées nous attendent, surtout moi, les corvées m'attendent. Je dois encore faire la cuisine, m'occuper de mes enfants, les préparer pour le lendemain, parce que je me réveille très tôt le matin et c'est reparti. Donc je travaille jusqu'à minuit ou 23h30 à la maison.
Avec la hausse du nombre de femmes chauffeurs de bus et de VTC, dont les plus connues au Nigeria, Uber et Bolt, l'association nigériane Ladies on Wheels, LOWAN, compte aujourd'hui plus de 5000 membres, contre seulement 6 à sa création en 2018.
Certaines personnes réfugiées dans les camps de déplacés de l'état de Gedaref au Soudan disent avoir besoin de nourriture et de soins médicaux. Une réfugiée tchadienne affirme que la vie à l'intérieur du camp est difficile pour sa famille. Reportage de notre collègue John Tanza à Omdurman. Récit Michel Joseph.
Kaltoum Zakaria Ali, qui a fui le Tchad pour se réfugier au Soudan dans un camp de déplacés à Gedaref, a du mal à nourrir ses enfants. Sa fille d'un an n'a pas mangé depuis le matin. En plus d'être déplacée par le conflit soudanais, Kaltoum a un autre problème. Un médecin de la clinique mobile de l'Association des médecins américano-soudanais s'occupe de sa santé mentale. Elle dit que la vie dans le camp est très difficile pour elle et ses quatre enfants.
Wallahi, ma situation est difficile. Parfois, je dois mendier. Et ceux qui ont de l'argent me donnent 100 livres soudanaises. D'autres me donnent 200 livres soudanaises. Et je suis en mesure de donner le petit déjeuner à mes quatre enfants.
Les Soudanais et les étrangers qui ont fui les combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide disent qu'ils sont confrontés à des difficultés dans les camps de personnes déplacées de l'état de Gedaref. Fitine Awad Ibrahim est une Soudanaise, mère de quatre enfants, qui a fui Khartoum pour Gedaref. Elle dit que trouver de la nourriture pour ses enfants est un défi quotidien.
Cela fait 4 mois que nous sommes arrivés ici. Et depuis décembre de l'année dernière, nous n'avons reçu qu'une seule fois des rations alimentaires. Imaginez une mère de 6 à 7 enfants qui n'a reçu qu'une seule ration alimentaire et qui n'a pas travaillé pendant 3 mois. Nous avons des enfants mal nourris et vous les avez vus lorsque vous êtes rentrés dans le camp. Nous avons besoin de soins de santé pour les enfants et les personnes âgées qui souffrent de maladies chroniques.
Lorsque le conflit a éclaté dans la capitale soudanaise, Khartoum, il y a 2 ans, les familles vivant dans les villes jumelles voisines d'Omdurman et de Bari ont fui vers d'autres états du pays en quête de sécurité. Madame Ibrahim explique que les maires de son camp sont confrontés à de multiples difficultés, notamment le manque de nourriture et de soins médicaux.
Nous, les mères, n'avons pas grand-chose parce que nous n'avons pas d'emploi qui nous permette de subvenir aux besoins de nos enfants. Ce sont des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés ici.
Certaines femmes des camps de déplacés ont fui sans leur conjoint et d'autres sont devenues veuves à cause du conflit. Madame Ibrahim raconte qu'elle a fui Khartoum pour Gedaref avec ses enfants et qu'elle n'a pas été en contact avec son mari depuis que la guerre a éclaté.
Mon mari n'est pas là et j'ai un enfant malade qui a un problème. On lui a diagnostiqué des rhumatismes. Son état s'aggrave et la maladie a atteint son cœur. Il doit faire des examens. Même moi, je suis malade et je n'ai pas d'argent pour faire un bilan de santé parce que les associations ne nous aident pas.
Le conflit soudanais, qui a éclaté en avril 2023, a déplacé des milliers de familles de la capitale Khartoum et des villes jumelles de Bari et Omdurman.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezelo, à la mise en onde, Lionel Unanila Gahima. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une